France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous Saïd ? Je ne parle pas d'Edouard Saïd, le grand intellectuel palestinien de l'orientalisme, cette manière qu'eut l'Occident d'inventer un Orient à sa convenance et à son inverse ressemblance, faite de crainte et de fascination mêlées. Non, je parle de Mahmoud Saïd, haut fonctionnaire et artiste alexandrin, qui tenta de déjouer l'orientalisme par les moyens propres des arts visuels. C'est lui qui fonda, dans la première moitié du XXe siècle, l'école des beaux-arts d'Égypte, et avec elle, le modernisme en peinture. Mais qu'est-ce au fond que la modernité? Est-ce la rupture avec la tradition ou l'art de l'ambivalence, une manière de jouer des codes et de se défaire des contraintes? D'Istanbul au Caire, mille manières d'être moderne. Tel est le titre du documentaire d'Ilana Navarro, actuellement disponible sur la plateforme d'Arte, et qui nous propose une histoire décentrée de la peinture moderne depuis la chute de l'Empire ottoman. Car c'est là que commence notre voyage. De Osman Hamdi Bey à Abdel Hadi El Ghazar, en passant par Omar Onsi et Mahmoud Saïd, allons-y voir. Allons-y voir, oui, en compagnie d'Ilana Navarro et Olivier Bouquet, bientôt rejoint par Nadia Radouane et notre sociétaire du jour, Elvan Zabunian. Et puisqu'il sera question de regard, de féminité et aussi de nudité, regardons cette femme aux boucles d'or que Mahmoud Saïd peignit en 1933, figure emblématique de la Narda, c'est-à-dire de la Renaissance arabe, où cette lumière chaude dont les orientalistes nimbaient leur composition semble émaner de la figure même.
La femme aux boucles d'or de Mahmoud Saïd, c'est un peu la Joconde de l'Égypte moderne. C'est vraiment ça. Elle est ambiguë. Elle a un regard troublant. Elle a des traits masculins, comme très souvent les portraits féminins chez Mahmoud Saïd. Et d'ailleurs, l'inverse pour les portraits masculins qui ont plutôt... voilà, il y a toujours cette dualité dans ces portraits. Donc ça devient vraiment une icône de la modernité.
Près d'un siècle plus tard, cette modernité qui n'appartient qu'à lui fera de Mahmoud Saïd le peintre le plus coté du monde arabe. Son univers est un refuge bienvenu, un lieu où déposer ses doutes et ses craintes. S'accorder un instant de paix dans un monde qui vacille. Créer une autre manière d'être moderne.
C'est la voix de Nadia Radouane qui nous rejoindra tout à l'heure, qu'on a entendu là dans votre documentaire. Ilana Navarro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née à Istanbul, vous avez étudié la sociologie à New York, vous avez exercé le journalisme en Turquie, mais depuis 2001, je crois, vous vivez en France, où vous réalisez des documentaires pour la radio, notamment France Culture, et pour la télévision, et notamment Arte. Pour la radio, vous avez évoqué la figure de Gisèle Halimi, pour la télévision, celle de Joséphine Baker, et dans les deux cas, vous y croisez Histoire de l'intime, de la conscience politique. On retrouve ces thèmes hein, de l'identité, de la condition féminine, de la puissance iconique des histoires exemplaires. Dans votre dernier documentaire, c'est ça aussi que vous avez sans doute voulu mettre en avant, c'est des grandes figures, et en particulier, on va en reparler, des grandes figures de femmes.
En effet, il n'y a pas que des grandes figures de femmes, il y en a aussi, c'est sur Istanbul, Beyrouth, Bagdad et moderne, qu'on s'est concentré pour écrire ce documentaire avec mon co-auteur Karim Misquet, qui est comme une déambulation entre 1860, date où Osman Hamdi Bey arrive à Paris, Et on va dire, grosso modo, le début du 21e siècle, c'est 150 ans d'histoire avec un parti pris assez libre qui suit des artistes, des peintres surtout, qui ont réfléchi à la question du regard, qui ont écrit ce qu'ils ont pensé sur leur création. Et donc, c'est ça qui nous a stimulés.
Voilà, le décor est planté. Bonjour, Olivier Bouquet.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'Université de Paris-Cité, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et vous êtes spécialiste du monde turc et ottoman. Vous avez d'ailleurs enseigné à l'Université Galatasaray d'Istanbul. L'Empire ottoman, vous l'abordez de bien des manières. Vous en avez étudié les administrateurs, les pachas, les sultans. Votre dernier livre, Vie et mort d'un grand vizir, Halil Hamid Pacha, biographie de l'Empire ottoman, paru aux Belles Lettres en 2023. Là, on était à la fin du XVIIIe siècle. Et vous avez publié l'année précédente, Pourquoi l'Empire ottoman, 6 siècles d'histoire en folio histoire. C'est un livre formidable. Je peux vous d'ailleurs retourner la question, pourquoi l'Empire ottoman, pour vous comme historien, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans?
Alors pourquoi l'Empire ottoman, pourquoi en parler, pourquoi faudrait-il en parler, qu'est-ce qu'on y trouve quand on en parle, et finalement on y trouve à peu près tout ce que l'on trouve, oui, notamment dans les arts visuels. Et beaucoup de peintures, beaucoup d'art visuel, et des interactions entre les différents arts, des grandes familles qui sont des familles d'artistes, mais qui sont aussi des familles de politiques, et des formes d'hybridation qui vont bien au-delà de la modernité. La modernité qui n'est pas une importation venue d'Occident, la modernité qui est plutôt une hybridation, c'est-à-dire une ambiguïté, comme dans ce portrait de la Joconde aux boucles d'or. Et,
voilà.
Et tout cela, on le trouve dans l'Empire.
Alors justement, on va commencer par là, vous l'avez dit, Ilana Navarro, on va commencer par cette figure que vous mettez en avant du premier épisode, parce qu'il y en a 3 dans votre documentaire, Osman Hamdi Bey. Le premier épisode s'appelle « Voyage en Occident ». Et Osman Hamdi Bey, évidemment, par une sorte de clin d'œil à Flaubert, et ben voilà, c'est cet ottoman qui part à Paris.
En effet, il était un ottoman. Son père, en fait, l'a envoyé à Paris pour qu'il fasse des études de diplomatie. Où on voulait qu'il devienne un haut fonctionnaire de l'Empire ottoman. Mais lui, il s'est pris par les arts. Et en fait, plus que les arts, on a essayé de voir quoi dans l'image, dans le pouvoir de l'image, l'a séduit pour qu'il puisse vraiment le prendre comme une technique pour finalement le manier à sa façon plus tard. En fait, ça tombait, et Olivier, vous allez pouvoir me relancer là-dessus, peut-être vous viens reprendre là-dessus, c'est sûr. Pourquoi les Ottomans, est-ce qu'ils regardaient à ce point-là l'Occident comme un modèle à suivre à ce moment-là? C'est parce que ça tombait exactement à ce moment-là où Osman Hamdi voulait peindre à l'occidental, sauf que ça tombait à la période, exactement la même période, où en Europe, la mode, c'était la peinture orientaliste.
Donc, et puis évidemment, on est dans votre monde, Olivier Bouquet, et on est dans le monde aussi des hauts fonctionnaires, de cette modernisation de l'État, justement. Modernisation, modernité, c'est toute la question.
Absolument. On est dans un double monde. On est dans le monde du 19e siècle, le monde de la modernisation, le monde de l'occidentalisation à tout crin. Et puis on est aussi dans un monde ottoman qui reste ottoman, dans un monde dans lequel les arts visuels ont une importance réelle. Mais le premier des arts visuels, ça n'est pas la peinture. La peinture, c'est un art secondaire. Mm-hmm. C'est un art, alors, importé pour le coup. C'est l'art des portraitistes de cour, des portraitistes de sultans. Et c'est un art qui est lié aux miniatures, qui est lié à la décoration des manuscrits. Parce que l'art visuel plus important dans l'Empire ottoman, comme dans tous les espaces islamiques, c'est la calligraphie.
Et depuis bien longtemps, on se souvient du magnifique roman de Orhan Pamuk, Mon nom est rouge.
Exactement, c'est la calligraphie. Et Orhan Pamuk est un bon exemple pour nous rappeler que les arts vont ensemble. C'est-à-dire que Orhan Pamuk est un écrivain, mais c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse énormément à la photographie. Et finalement, son style est un style de portrait de ville. Il a une façon d'écrire, comme il a une façon de faire des portraits de ville, un petit peu comme Goïti Solo. Et on a ça chez les Ottomans très tôt, c'est-à-dire que les arts s'articulent les uns aux autres. De manière très nette, les manuscrits sont des manuscrits décorés.
Oui.
Et ce sont des manuscrits pleins de peinture d'une certaine manière. Alors même que la peinture n'existe pas en tant que telle dans l'espace ottoman avant le 19e siècle.
Alors vous l'avez dit, Ilana Navarro, cette question, en tout cas celle qui est
qui inspire la nervure centrale de votre argumentation filmique dans ce documentaire, c'est le rapport à l'Occident. Un des grands spécialistes de cet éminent peintre, c'est Edem Eldem, qui est historien de la Turquie et de l'Empire ottoman, qui a été longtemps au Collège de France et qui est maintenant à l'Université Columbia. Écoutez ce qu'il en dit, justement, dans votre documentaire.
Hamdi est un produit direct, disons, d'une génération de bureaucrates, d'une génération d'hommes d'État qui croient en l'Occident comme étant la civilisation, avec un C majuscule, l'Occident comme étant le modèle à suivre, et par conséquent en l'établissement dans l'Empire ottoman de toutes les institutions qui permettraient d'imiter, d'émuler le modèle européen afin d'engager l'Empire dans la voie du progrès. Alors, il faut savoir que Osman Hamdi, lorsqu'il arrive à Paris, il est plongé dans un environnement extrêmement conservateur. Hamdi est un objet de curiosité. C'est de l'orientalisme, mais c'est « Oh, vous êtes turc, comment ?» Bon, il y a beaucoup de condescendance, c'est bon. Mais il est un peu victime de cela. Et je pense qu'il en est conscient. Il a été, en quelque sorte, poussé dans la voie de l'orientalisme par, justement, l'establishment dans lequel il était entré. C'est-à-dire que on lui a dit, en gros, vous êtes un oriental qui manie bien le pinceau, mais ce qui vous fera, vous donnera une originalité, c'est de peindre l'Orient. Donc, jouez le rôle, en quelque sorte, d'un passeur, peignez à notre manière votre monde.
Chez lui, pas d'odalisque à Langui, pas d'esclave à demi nu. Les femmes sont cultivées. Elles sont musiciennes. Certaines se jouent même de la religion. Ainsi de celle-ci à l'allure souveraine, assise à la place du prédicateur, entourée de textes sacrés.
C'est une allégorie de la femme, de la mère, et c'est une sorte de pique contre le dogme, contre la religion. C'est-à-dire que l'élite ottomane, dans son engouement pour l'Occident, est constamment travaillée par cette notion qui est très orientaliste, de savoir que l'islam est un obstacle au développement de l'Orient, que l'islam est un problème.
Dans cette peinture, une magnifique femme qui est assez dévêtue, mais qui n'est pas justement dans les standards de l'orientalisme un peu graveleux, on est dans cette culture de graphique dont vous êtes l'historien, Olivier Bouquet. Elle est entourée d'écriture.
Elle est entourée d'écriture, on a même le sentiment qu'elle serait assise sur un porte-coran. Oui. Il y a une touche assez ambiguë, vous parlez de modernité qu'ambiguïté, on est en plein là-dedans, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est une sorte de réponse à la manière, par exemple, dont au milieu du XVIIIe siècle, la comtesse de Vergennes, la femme de l'ambassadeur de France près de la Sublime Porte, à l'époque de Louis XV, s'était elle-même fait peindre en oriental. Et le comte de Vergennes s'était fait peindre en oriental. Là, elle est peinte à la fois en oriental et en même temps en occidental. On a une robe antari, une robe typiquement ottomane, mais on a une pose qui est finalement assez peu ottomane. On est très très loin de l'espace du harem, c'est pas du tout une représentation de harem, ça.
Qu'est-ce que vous y voyez, Ilana
C'est vrai qu'elle a le ventre un peu gonflé, c'est-à-dire on pourrait penser qu'elle est enceinte. Et là, le regard un peu absent, ce qui peut marquer une sorte de... quelque chose de, peut-être un peu de folie ou quelque chose d'un peu, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a une défiance dans sa manière d'être assise dans cet espace qui est normalement un endroit dédié aux prédicateurs dans une mosquée.
D'ailleurs, Osman Hamdi Bey, Edem Eldem, en a publié la correspondance. Et il est très soucieux de la question du corps, de la manière de se tenir. Il lutte contre ce qu'il appelle dans un jeu de mots français, la turquitude, hein, ou les turquitudes, c'est-à-dire une mauvaise manière de se... Là, on est vraiment au cœur, Olivier Bouquet, de cette haine de soi, quand même.
Oui, oui. C'est quelqu'un qui rétablit les Ottomans dans leur harem, c'est-à-dire qui il revivifie une tradition effectivement très très orientaliste, mais les corps sont totalement différents de la manière dont on les voit dans les peintures du milieu du 19e siècle, et il prépare d'une certaine manière la beauté du corps du 20e siècle, parce qu'il y a quand même un problème dans l'Empire ottoman, c'est qu'il n'y a pas de sculpture du nu.
Oui.
Le corps n'est pas sculpté. Le corps est représenté autrement justement. il y a des miniatures érotiques, hein. Il y a le corps est représenté, on le voit dans les miniatures, mais ce qui manque aux Ottomans, c'est la sculpture. Et ce qui se passe au 19e siècle, mais à la fin du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, c'est qu'on a une articulation entre la peinture et la sculpture.
Et oui, parce que pour vous, le voyage en Occident, c'est important, mais le voyage entre les arts l'est tout autant, au fond, pour comprendre la modernité ottomane.
Exactement, parce que dans ces grandes familles, il y a une sorte de distribution des vieux landingres. C'est-à-dire qu'il y a une distribution des langues, certains sont plus francophones, d'autres connaissent le grec, connaissent le latin, c'est-à-dire qu'ils connaissaient plusieurs langues, parce que tout ça, évidemment, se passe dans les grandes familles. Mais vous voyez que chez les descendants notamment d'Osman Hamdi Bey ou d'autres grands pachas, on a des filles, très souvent, qui sont certaines peintres, d'autres sculptrices. Et puis, la céramique. Plus tard, on a une redécouverte de la céramique par des gens qui sont associés à des familles modernes, mais qui redécouvrent des arts ottomans très classiques.
Ilana Navarro, pour vous, c'était important de commencer cette aventure hein, visuelle, ce voyage en Occident, de la mille manières d'être moderne, évidemment à Istanbul, mais avec ce personnage.
Avec Osman Hamdi Bey, tout à fait. C'était très important à la fois pour ancrer l'histoire dans un territoire qui était dans l'ex-Empire ottoman, de partir du centre, c'est-à-dire d'Istanbul, pour suivre un des premiers peintres de cette modernité, disons, de l'Empire ottoman, avec Osman Hamdi, qui est le premier peintre qui a vraiment fait ce voyage, qui s'est imprégné complètement de la peinture orientaliste. Enfin, si vous questionnez Ethem Aldam, il va d'ailleurs dire qu'il est un auto-orientaliste,
oui.
C'est-à-dire qu'il utilise tous les codes de l'orientalisme pour faire ses peintures, mais toute la différence, c'est avec la manière dont il met en scène ses personnages, c'est-à-dire ces personnages sont souvent cultivés. Ils lisent. Il y a le jeune émir, par exemple, qui est allongé. Il a un livre dans la main. Ça change tout, en fait, d'avoir quelqu'un qui a un livre dans la main. Idem avec les personnages féminins qui jouent de la musique. Et ça fait... c'est ça la grosse différence avec la peinture orientaliste en Occident.
Olivier Bouquet.
Osman Hamdi Bey, c'est un intellectuel, c'est un muséographe,
c'est un
archéologue. C'est-à-dire qu'on a véritablement des honnêtes hommes. Moi, il me fait penser un peu à Jefferson, par exemple,
oui.
Un siècle plus tôt. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font le lien entre les arts et les sciences, qui font le lien entre les nouvelles formes d'expression par l'imprimé, par la lithographie. Le portrait bénéficie beaucoup de la lithographie. Les portraits sultans bénéficient de la lithographie. Et la muséographie est absolument centrale dans la constitution des arts ottomans à la fin de l'époque.
Et vous en avez plein, d'ailleurs. Excusez-moi de vous couper, Olivier Bouquet, vous en avez plein des pachas comme ça qui sont dans votre corpus, si j'ose dire, vous, historien de la modernisation ottomane, qui sont effectivement des touche-à-tout culturels.
Exactement, et des pachas militaires, c'est-à-dire que les pachas qui organisent les premières expositions ottomanes sont des pachas qui ont appris le dessin par le biais de la cartographie, qui ont fait leur voyage en Occident et qui ont importé des techniques qui leur permettent ensuite de développer une peinture ottomane assez spécifique, totalement en marge de l'impressionnisme, et qui est beaucoup plus marquée ensuite par exemple, l'expressionnisme allemand.
Oui.
Donc, la peinture du XXe siècle ottomane est vraiment différente de la peinture du XIXe siècle, mais par ces échanges entre les différentes formes artistiques, elle se développe de mille manières.
Alors, je voudrais vous faire écouter une archive, c'est Fernand Léger. On est dans son atelier, en 1949, et on voit justement que dans cet atelier, il y a, là en l'occurrence, des Égyptiens, et donc ce voyage à Paris, on va comprendre, Ilana Navarro, comment d'une certaine manière il produit des chocs en retour.
Qui est-ce ?
Monsieur Amner.
Monsieur Amner a quelle nationalité ?
Égyptien.
Vous êtes égyptien. Alors, monsieur Amner, deux mois au moins, a résolu son problème. Il a longtemps été dans une époque de transition. Maintenant, je crois que c'est un des meilleurs élèves actuels. Il a trouvé sa formule, qui est assez monumentale, vous voyez, d'après ses figures. Et je crois que lui a trouvé sa ligne. Il a trouvé même très vite.
Je dois vous préciser que M. Abner présente aux critiques du maître Fernand Léger une toile, ou plus exactement, c'est une peinture.
C'est une gouache.
C'est une gouache, oui. Une gouache sur papier, une composition de cinq figures humaines.
C'est ça. Alors, suivi par des toiles qu'on peut considérer, même avec lui, comme des fragments de grandes compositions, parce qu'il a le sens monumental. Je suis assez satisfait de ces choses-là, ce n'est pas encore complet, mais enfin, ça, c'est dans une très bonne direction.
Il me semble, maître, que cet élève a subi fortement votre influence.
Ben, écoutez, c'est inévitable, n'est-ce pas, que Louis, ils sont ici, et comme, si vous voulez, c'est le cas de nous autres, il y a, en 1907 ou 8, nous avons subi l'influence assez négative des fauves, mais plus constructive des impressionnistes.
Alors là, il en a à Navarro, on est en plein dans cette histoire de la modernité en peinture, avec évidemment un petit brin de condescendance hein, quand même chez Léger, mais c'est ce monde-là dont vous tentez d'être l'historienne dans le documentaire dont on parle, les mille manières d'être moderne.
On a essayé de raconter l'histoire avec des historiens, en interviewant des historiens qui étaient quand même les vrais spécialistes. Mais oui, notre point de vue, c'est de raconter des peintres qui ont donc eu une réflexion, une écriture sur leur cheminement. C'est ça qui nous a guidés. Et entre autres, il y a des gens qui sont passés, entre autres chez Fernand Léger, mais pas que, à l'Académie Julien, il y a aussi aux Beaux-Arts, enfin, il y en a beaucoup qui sont passés à Rome parfois.
Oui.
D'ailleurs, il y a eu une excellente exposition à Paris en 2024 qui s'appelle Présence arabe au Musée de l'Art moderne, qui racontait une grosse partie de ces modernes à Paris, qui partaient de Paris. Mm-hmm.
C'est une histoire effectivement de ville. Il y a Istanbul, il y a le Caire, il y a aussi Beyrouth. Je voudrais qu'on parle de Omar Onsi. C'est un peintre voilà que je connaissais pas du tout, et en particulier il y a cette image que je trouve frappante, que je vous donne si vous pouvez la commenter, celle des femmes qui regardent des nus,
oui,
au musée.
C'est une peinture de 1932 qui s'appelle « À l'exposition » du peintre libanais Omar Onsi. Donc il s'agit de... Enfin, dans la peinture, on voit peut-être aller 6 femmes et un enfant qui s'attardent autour d'une peinture de nu. Et les femmes, elles sont toutes habillées en noir, c'est-à-dire on peut dire... Comme ça, quand on les regarde maintenant, on peut dire que c'est un voile noir, c'est-à-dire qu'elles sont entièrement noires. Mais quand on regarde attentivement, on voit que les voiles ne sont pas les voiles traditionnels, que les jupes se sont raccourcies,
oui,
qu'on voit vraiment les bas, on voit les talons, les chaussures à talons. On voit que c'est les modernes de Beyrouth. Et elles sont en train de regarder un nu. Et en fait, j'ai cru comprendre que cette image-là, pour longtemps, pour les Beyrouthins, signifiait un peu les deux mondes à part de Beyrouth. Mais en fait, justement, l'anthropologue et historienne de l'art qu'on a interviewé, Kirsten Shade, qui a étudié Omar Onsi, elle disait qu'au contraire, c'était plutôt des femmes qui voulaient être vues en train de regarder. Que en fait, c'était à l'époque, c'était vraiment ça qui importait aux gens, c'était la capacité à pouvoir regarder un nu. Et d'ailleurs, il y a un autre peintre, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, Mustapha Farouk, qui a aussi écrit sur la capacité de peindre des nus. Mais en tout cas, là, il s'agit en l'occurrence de la capacité de regarder des nus et aussi de vouloir être vu en train de regarder pour que les gens puissent dire qu'on est moderne.
C'est
parce qu'on est capable de le faire.
On est dans les années 30, début des années 30, à Beyrouth. Je vous fais passer l'image, Olivier Bouquet. Je crois que effectivement, tout est affaire de regard, et la nudité est tout de même, je dirais, la mise à l'épreuve de cette question moderne.
Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ça recoupe des choses qui se produisent dans l'espace ottoman et turc à la même époque. Qu'est-ce qui se passe en 1914? En 1914, Myrianum, dont vous parlez dans le documentaire, ouvre une école des beaux-arts pour les femmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la possibilité désormais pour des peintres femmes de peindre des corps de nus.
Oui, oui.
Et on a même
des corps d'hommes.
Y compris des corps d'hommes. Et on a même des hommes qui vont venir peindre des corps de nus. Des hommes qui ensuite vont peindre à Paris et vont voir des nus dans les ateliers. Donc ça, c'est une première chose. Et 15 ans plus tard, à la même époque, au début des années 1930, il y a des expositions dans les musées, y compris ethnographiques, avec des corps nus qui sont représentés dans des peintures. Et il y a des caricatures faites par le journal du j'allais dire du pouvoir, c'est-à-dire le journal Jumhuriyet, hein, qui représente des caricatures dans lesquelles on voit justement des hommes un peu traditionnels regarder des corps de nus. Certains même sont poussés dans l'exposition avec les yeux bandés en disant « je ne vais pas regarder ça ». Et donc il y a tout un jeu sur la modernité et la nudité dans un nouvel espace républicain.
Vous connaissez Mathieu Pot-de-Bonneville, il est directeur du département culture et création du musée Beaubourg et parfois, souvent en fait, très souvent, il nous envoie des cartes postales.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, l'union des falaises sombres, du sol rose et des arbustes vert pâle était belle pour des yeux saturés par des mois de soleil et d'ombre noire de suie. Quand le soir arriva, le soleil au déclin jeta un éclat cramoisi sur l'un des côtés de la vallée, laissant l'autre dans une obscurité violette. C'est ce passage, parmi d'autres, qui convainc Gilles Deleuze de voir en Thomas Edward Lawrence, celui qu'on surnommait aussi Lawrence d'Arabie, l'un des plus grands paysagistes de la littérature. Le texte que le philosophe consacre à l'auteur britannique et à son grand livre « Les sept piliers de la sagesse » fait valoir la dimension profondément picturale de sa description du désert. Je cite « Et la couleur et mouvement, elle est déviation, déplacement, glissement, oblicité, non moins que le trait. » Si je repense pourtant à ma propre découverte de ce livre où Lawrence décrit la part active qu'il prit aux révoltes arabes contre les Turcs, portant un rude coup à l'Empire ottoman et préparant le joug nouveau que les accords Sykes-Picot allaient imposer à cette partie du monde, si je repense donc à ce livre, c'est un autre tableau qui me revient, moins coloré et plus géométrique. Un tableau en deux colonnes, celui que le plus jeune frère de l'auteur, Arnold Walter Lawrence, fait figurer dans la préface qu'il établit pour l'édition du texte. Au moment d'évoquer les multiples variations que connaît au fil des pages, sous la plume de son frère aîné, la graphie des noms arabes, il restitue une série d'échanges entre celui-ci et son éditeur. Il dresse, en divisant la page par le milieu, le tableau de ses allées et retours éditoriaux. L'éditeur. Je joins une série de questions soulevées par F qui relie les épreuves. Il les trouve très au propre, mais pleines d'inconsistances dans l'orthographe des noms propres, point que les critiques relèvent souvent. Pourriez-vous les annoter en marge afin que je fasse corriger ? Lawrence. Les noms arabes ne passent pas exactement en anglais car leurs consonnes ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et leurs voyelles comme les nôtres varient selon les districts. Il y a bien quelques systèmes scientifiques de translittération. Ils sont utiles aux gens qui connaissent assez d'arabe pour ne pas en avoir besoin, mais ils font un four avec le reste du monde. J'écris mes noms n'importe comment pour montrer quelles blagues sont les systèmes. L'éditeur. Jeddah et Jida sont utilisés indifféremment partout. Intentionnel ? Lawrence. Plutôt. L'éditeur. La Bisaïta est aussi écrite Bisalta. Lawrence. Bien. L'éditeur. Jeddah la Chamel était Jeddah avec un H, page 40. Lawrence. C'était une bête splendide. L'éditeur. Shérif Abdelmayin devient Elmen, Elmayen, Elmouen, Elmayin et Elmouyen. Lawrence. Épatant. Je trouve ça vraiment ingénieux. Vous m'accorderez, Patrick, que ingénieux, c'est un curieux éloge tacticien pour un point de vocabulaire. Dans le chapitre 33 du livre, véritable abrégé des techniques de guérilla qui fascina le général Giap, l'auteur insiste sur l'importance de prendre en compte, je le cite, « la capacité de nos hommes à avoir l'humeur changeante, leur complexité et leur mutabilité ». Comment disait Deleuze déjà ? La couleur et mouvement, elle est déviation, déplacement, glissement, oblicité. La peinture et la traduction relèvent peut-être elles aussi de l'infiltration ou de l'art du camouflage.
La couleur et mouvement, oblicité, mais l'écriture d'abord, évidemment, Olivier Bouquet. Là, on saisit bien ce que c'est que la variabilité de cet art visuel dans l'Empire ottoman et puis ensuite dans les pays arabes.
Exactement. Les arts visuels sont des arts qui sont finalement inaccessibles à l'essentiel de la population, parce que les arts visuels dominants, ce sont les arts écrits, c'est la calligraphie. Et les fidèles viennent effectivement à la mosquée et ne peuvent pas lire tout ce qu'ils voient. Avec la peinture et avec l'imprimé, avec la lithographie, avec l'apparition des couleurs à la fin du 19e siècle, et dans différentes formes imprimées ensuite en Turquie, mais aussi dans le monde arabe, c'est un espace qui est un espace coloré qui est désormais accessible à tous. Et en fait, il y a un rapport très net entre la peinture et la politique. La peinture est un vecteur de la modernité parce que elle est un vecteur du politique.
Oui, l'écriture et aussi la vibration de la couleur. Vous le donnez à voir dans votre documentaire Ilana Navarro. Puis on peut peut-être revenir quand même sur cette magnifique femme aux boucles d'or, aux boucles blondes, sur laquelle on commençait, de Mahmoud Saïd. La couleur, là, elle est irradiante, en fait, comme souvent chez Mahmoud Saïd. Elle prend l'ensemble de la composition.
Complètement. C'est vrai que cette femme, elle a un regard complètement captivant. Elle a les yeux un peu verts, un peu couleur changeante. On dirait en turc des yeux Ella qui sont un peu vert-gris. Ses cheveux sont colorés avec un blond très, 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 très doré. Et sa peau, on a souvent dit qu'il a détourné la lumière des orientalistes pour donner une couleur du fond, pour vraiment illuminer ces personnages de l'intérieur. Et c'est ça un peu la beauté des personnages de Saïd.
Et puisque c'est la Joconde, on l'a dit, de la Renaissance arabe, bah, écoutons Mona Lisa de Guy Suakyol, c'est en 2016.
Kastın neydi ey gafil, yıktın bendimi, bendimi. Selamın ağır oldum, çözdün dengimi, dengimi.
Radouane est historienne de l'art, spécialiste de l'art moderne et contemporain au Moyen-Orient, et elle nous appelle depuis Genève, où elle dirige le département des arts visuels de la Haute École des Arts et du Design. Vous avez publié, Nadia Radouane, en 2017, chez Peter Lang, Les Modernes d'Égypte. Bonjour.
Bonjour.
Alors justement, on vous a entendu tout à l'heure dans le documentaire de Ilana Navarro à propos de Mahmoud Saïd. Ça fait partie pour vous de ces figures que dans votre livre sur les modernes d'Égypte, vous mettez en avant.
Oui, absolument. Mahmoud Saïd, c'est vraiment une figure emblématique d'une génération qu'on pourrait appeler les Nahdaouis. C'est-à-dire un peu les ambassadeurs de cette Narda, qui est donc la Renaissance, qui marque la première moitié du XXe et qui est en fait, disons, l'espoir d'un projet moderne, hein, pour l'Égypte et dans cette modernité dans laquelle s'engagent les artistes comme Mahmoud Saïd et d'autres.
Est-ce que vous décrivez, effectivement, c'est une modernité qui est une modernité propre à l'Égypte, hein, c'est-à-dire qui va chercher dans l'histoire égyptienne, dans l'histoire visuelle de l'Égypte, ses ressources spécifiques et pas nécessairement l'obligation d'aller en Occident chercher justement de quoi recommencer cette histoire.
Oui, alors c'est une modernité qui est investie par des regards qui sont tournés bien sûr vers l'Occident. Il y a aussi beaucoup de mobilité de ces artistes, mais il y a aussi beaucoup d'artistes européens qui sont établis en Égypte. Mais ces regards tournés vers l'Occident sont là pour répondre à des préoccupations qui sont dans le fond locales. Et dans le fond, cette modernité offre aussi énormément de liberté.
Oui.
C'est un espace en fait d'expérimentation, puisque ces artistes ne sont pas contraints aux exigences d'une école ou d'un mouvement, dont on sait à quel point ils sont basés sur des systèmes d'inclusion et d'exclusion dans les centres, entre guillemets, de production artistique européens.
Alors justement, puisqu'on parle d'inclusion et d'exclusion, j'aurais qu'on évoque cette figure du surréalisme, si on peut dire, égyptien, qui est Abdel Hadi El Gazzar, justement, dont vous montrez fort bien, et c'est aussi très important dans le documentaire d'Ilana Navarro, vous montrez très bien que, bien sûr que ça participe de ce surréalisme, disons, transnational, mais que là encore, c'est dans la culture égyptienne propre qu'il trouve son origine et son encouragement.
Oui, absolument. Et dans le cas d'Abdel Hadi El Gazzar, qui est donc, on pourrait dire, la deuxième génération,
oui.
Donc en rupture en quelque sorte avec cette première génération engagée dans la Narda, Abdel Hadi El Gazzar appartient à une génération qui est désillusionnée aussi par l'échec, on pourrait dire, ou surtout l'inaboutissement de ce grand projet moderne. Et en rupture également avec l'académisme tel qu'enseigné à l'école des Beaux-Arts du Caire. Et on a souvent lié la pratique d'artistes comme Gazzar ou d'autres comme Hamed Nada, qui appartiennent d'ailleurs au même groupe, au fait qu'ils aient évolué dans des quartiers défavorisés, des quartiers populaires du Caire. Mais c'est surtout, enfin, à mon sens, au niveau pédagogique, que des espaces de grande liberté, d'expérimentation se sont ouverts, puisque c'est une génération qui a été formée aussi par des pédagogues, des artistes pédagogues, dont beaucoup ont voyagé en Grande-Bretagne et étaient dans l'idée d'instaurer ces pédagogies, disons, nouvelles en Égypte.
Voilà. Alors, justement,
de l'école des Beaux-Arts, voilà.
Pour donner à voir un peu ou donner à imaginer El Gazzar, il y a cette extraordinaire peinture qui est de 1953, je crois. Il y en a Navarro qui s'appelle Un djinn amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on y voit?
Et moi, j'aime beaucoup cette peinture. On voit une chimère, une créature mi-femme, mi-animal. Ses pattes de devant sont des pattes d'animaux, ses pattes de derrière sont des pieds d'humains. Elle a des mamelles, elle a une coiffure comme si elle était sortie de chez le coiffeur. Elle est blonde et elle porte une couronne sur,
oui,
la tête. Et au-dessus d'elle est allongée une autre femme, pour le coup vraiment une femme. Elle est enceinte. Et ses pieds sont tenus par une sorte de djinn, qui est une créature mi-lézard, mi-humain, qui l'attrape avec une sorte de clair de lune. C'est vraiment rempli de symboles. Si on regarde vraiment attentivement, on voit de plus en plus de symboles. Il y a un hibou, il y a un poème en arabe. C'est incroyable. On se demande vraiment qu'est-ce qui lui arrive.
Qu'est-ce qui lui arrive,
qu'est-ce qui lui arrive?
Ce qui lui arrive, Nadia Radouane, c'est qu'il va chercher cette culture souterraine, on peut dire, de l'Égypte, qui est à la fois ancienne, populaire, celle des djinns. Là, on a justement, un surréalisme qui est un surréalisme spécifique.
Oui, alors tout à fait. C'est une pratique qui est tout à fait spécifique. Ce qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est que dans ce monde de rêves souterrains, comme vous le dites très bien, à ça s'ajoute quand même un art qui est socialement engagé. Et ça, c'est une vraie rupture avec ce qui précède. C'est un art politique aussi. Des sujets comme la pauvreté, comme la condition du paysan égyptien, le fellah, sont abordés de manière détournée. Et donc, si le surréalisme égyptien s'inscrit dans un mouvement, bien sûr, international, c'est aussi toujours en réponse à, disons, ces préoccupations sociales et politiques locales.
On est loin de vos pachas ottomans, Olivier Bouquet, ouais. Avec ce surréalisme égyptien. Qu'est-ce que vous y voyez ?
On est très très loin des pachas ottomans. On est plus proche du monde du djinn. Il y a une certaine forme de mythologie, le rapport entre humain et non-humain qu'on trouve effectivement aussi dans des arts turcs. Donc on se rapproche d'un espace, on va dire... imaginer dès le Moyen-Âge, mais en même temps ce qui vient d'être dit me fait penser à ce que devient un autre art égyptien dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire le cinéma.
Oui.
C'est-à-dire que de la même façon que cette peinture est un art engagé, le cinéma égyptien dans la seconde moitié du XXe siècle devient un art engagé qui traite de problèmes qui sont des problèmes égyptiens, les mariages forcés, etc. Je pense que c'est une question très importante de souligner cette dimension à la fois mythologique, souterraine, et en même temps quelque chose qui est véritablement de la vie quotidienne des Égyptiens.
Et aussi industriel, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cinéchita kérot.
Ah oui, le cinéma kérot est extrêmement, extrêmement développé et très inventif, en dépit du régime politique nassérien qui est évoqué d'ailleurs dans le documentaire. C'est-à-dire que les artistes arrivent, y compris au cinéma, à produire un discours égyptien.
Nadia Radouane.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, cette génération d'artistes a un rapport assez ambigu au nassérisme. Abdelhadi El-Ghazar peint quand même, la construction du canal de Suez. Mais c'est toujours, il y a aussi une critique très forte chez lui de ce même régime lorsqu'il aborde un tableau qui s'appelle La Faim. Donc vraiment, la question de la pauvreté. En Égypte, et peut-être, oui, on peut ajouter que c'est aussi un moment, après la Seconde Guerre mondiale, les intellectuels égyptiens sont dans ce rapport, très ambigu, et surtout les artistes, avec le régime.
Merci Nadia Radouane. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait, Ilana Navarro, de votre documentaire, Les mille manières d'être moderne. Et là, justement, on va revenir sur cette question de la nudité avec une expérience visuelle, celle, écoutez, que fait Mustapha Farouk.
Les Ottomans sont partis. Les Français sont arrivés. Avec leurs armes, leurs fantasmes sur l'Orient éternel, et leur discours sur la civilisation, européenne forcément. Un discours auquel une partie des Libanais adhère. Les jeunes gens pressés de transformer la mosaïque identitaire qui les a vus grandir en une nation moderne. Mustapha Farouk est un de ces jeunes assoiffés de changement. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, ils rêvent de devenir peintres. À 23 ans, il part pour Rome s'inscrire aux Beaux-Arts. Car, il en est persuadé, l'artiste a un rôle majeur à jouer pour aider son pays à se moderniser, tout comme un médecin ou un ingénieur. Conscient de vivre en Europe une expérience hors du commun, il prend des notes sur tout ce qui lui arrive. Mais il n'aurait jamais pu imaginer que son premier cours de dessin de nu serait une épreuve aussi violente. Un choc qui va le marquer pour le restant de ses jours.
Ma bouche est devenue sèche, mes jambes se sont mises à trembler. J'ai fait de mon mieux pour résister à la réaction pénible et involontaire.
Là, on parlait d'une modernité comme art de l'ambivalence, et on voit bien, en entendant le journal de Mustapha Farouk, Ilana Navarro, que oui, cette ambivalence, elle peut même être douloureusement éprouvée.
Oui, Mustapha Farouk, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle « Ma vie dans l'art », où il raconte son expérience personnelle en tant qu'artiste débutant sa carrière à Rome, puis à Paris, et puis au Liban. Et en fait, cette manière de passer par l'expérience figurative, de devoir peindre des nus, l'a mis dans tous ses états, mais en fait, il l'a écrit dans son livre de façon extrêmement personnelle. Et encore une fois, l'historienne Kirsten Shahid l'a étudié pour vraiment montrer à quel point ce dépassement de soi pour pouvoir peindre des nus était quelque chose qui se montrait à lui-même comment il arrivait à être moderne.
Et oui. Ça l'a mis dans tous ses états. C'est bien dit, Olivier Bouquet, vous qui êtes un historien de la modernisation de l'État et de la modernité dans tous ses états.
Oui, je me dis que j'ai plus envie d'être un historien de la modernité pour étudier ces expériences radicales qui transforment un homme, qui transforment une femme, mais qui ensuite les conduisent à vouloir faire de la politique autrement par les arts. C'est-à-dire que ces artistes ont des expériences individuellement en Occident et en Orient, mais ensuite ils s'associent pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre artistique du régime politique. On a des associations d'hommes et de femmes, de sculpteurs, de peintres, à la fois dans le monde arabe et dans le monde turc, qui recourent à la muséographie et qui sont prêts à véritablement montrer ce qu'est la peinture pour changer la société.
Allez, on continue justement, on élargit encore notre regard, puisque vient d'entrer dans ce studio Elvan Zabunian. Bonjour.
Bonjour.
Alors Patrick, vous allez nous parler d'autre chose, ou peut-être d'une autre manière de voir la même chose, avec des photographies, c'est ça ?
Voilà, exactement. Ce que je voulais compléter, ou en tout cas aussi présenter la place de la modernité qui est celle de la photographie, une modernité qui touche aussi bien à des avancées techniques et scientifiques, puisque au XIXe siècle, exactement au moment où le daguerréotype est inventé par Daguerre en 1839, très très rapidement, les photographes de l'Empire ottoman s'emparent de ce médium, cet outil, cette technique. Et j'avais envie en fait de faire aussi un zoom en particulier sur les photographes arméniens de Constantinople, mais pas que, puisque au moment de donc au 19e, on compte à peu près 17 studios ou ateliers photographiques comme on les appelle, notamment les frères Abdullah, qui c'est un nom d'emprunt. Ils ont refusé de se convertir à l'islam, mais ont accepté de prendre le nom d'Abdullah frère. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on croise aussi, bien sûr, toutes les circulations au niveau des différentes techniques, puisque la chimie, les photographes arméniens deviennent, sont les pionniers, en fait, de ce médium dans ce contexte-là. Et, par exemple, sont imprimés sur l'île Saint-Lazare des Arméniens à Venise tous les ouvrages scientifiques qui permettent aux émulsions d'exister sur les plaques photographiques.
Vous êtes arrivé avec des images magnifiques.
Voilà, alors justement, j'avais Abdullah frère, c'est une image, c'est une carte de visite où on voit une jeune femme et le titre dit portrait d'une femme aux yeux clairs, et on voit en fait cette modernité aussi bien sûr sur l'usage de la carte de visite, puisque cette carte de visite c'est la technique inventée par Disdéry qui là aussi circule de façon très intéressante. Et puis, alors, par rapport à la question arménienne, ou en tout cas le côté pionnier de la photographie arménienne, j'avais envie de profiter de ces quelques minutes de parole en tant que sociétaire pour présenter la photographie d'une femme, Mariam Shahinyan, qui est une photographe absolument étonnante. Et en effet, j'ai plusieurs images que je peux faire circuler, parce que j'adore quand il y a le bruit des pages et des images qui circulent. Et c'est une photographe qui est née en 1911, dont le père avait aussi un studio à Istanbul qui s'appelait Photo Galatasaray. Et c'est une photographe qui est née en 1911 à Sivas, qui était donc un des lieux où s'est produit en particulier le génocide arménien. C'était une famille très très riche de la ville. Donc c'est une rescapée en fait du génocide arménien. Donc arrivée à Istanbul, elle devient la première femme. Alors j'aime pas trop dire toujours première femme comme si c'était quelque chose d'absolument exceptionnel, mais néanmoins pendant près de entre 1935 et 1985, elle est vraiment l'une des seules à avoir un studio atelier photographique professionnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux frères Abdullah qui ont par exemple, ou d'autres photographes arméniens qui ont beaucoup photographier l'élite, elle accueille dans son atelier photographique ou dans son studio beaucoup de personnes, par exemple des femmes musulmanes qui acceptent d'enlever le voile pour être photographiées, des couples homosexuels, qui sont dans une espèce de chorégraphie chorégraphie, cette image est magnifique. Ah, oui. C'est vraiment comme une chorégraphie du baiser qui est proposée, en fait, avec ces bouches qui se rapprochent. Et c'est étonnant. Là, pour moi, la modernité passe aussi par les sujets.
C'est une tourmente, en fait. Hein,
oui. Et puis, cet autre homme qui est montré, comme ça, avec un raffinement, une beauté, avec des boucles d'oreilles maquillées. Et puis il y a aussi, elle a aussi représenté des personnes qui sont afro-descendantes, puisque dans le contexte de l'Empire ottoman, il y a eu de l'esclavage avec des personnes venant du continent africain, et il y a encore une communauté que l'on appelle afro-turque en Turquie. L'une des images que vous avez, Patrick, à la main, c'est aussi ces deux femmes qui sont afro-descendantes. Oui. Et je ne sais pas quel est leur statut, mais en tout cas, il y a des portraits très très différents, des familles, des enfants, de tout. Les milieux sociaux, là, il y a des milliers de négatifs qui ont donné naissance à une exposition au début des années 2010 avec un ouvrage qui s'appelle Photo Galatasaray. Les archives ont été numérisées à 70%, mais elles ont failli disparaître du vivant de Mariam Shahinyan, qui est décédée en 1996, puisque le propriétaire de son atelier ou du studio a failli tout mettre à la poubelle et ça a été récupéré in extremis.
Ah, c'est peu de dire que ça complète le tableau. Là, on a effectivement, Olivier Bouquet, des images admirables d'abord, d'audace, de diversité. On avait commencé, Ilana Navarro, par évoquer Mahmoud Saïd, qui peint les hommes comme des femmes et les femmes comme des hommes. Bon, il y a à la fois le trouble dans le genre, il y a la diversité ethnique.
Et penser que c'est quelqu'un qui est né en 1911, c'est ça?
Oui, c'est 1911.
C'est d'une incroyable modernité, pour le coup, qui nous amène vers quelque chose qui est presque le LGBTQ plus queer.
Bien sûr.
C'est-à-dire que là, ça nous fait franchir tout un siècle. Absolument. De représentation. Et surtout, c'est très bien de rendre hommage à la photographie arménienne, parce que les Arméniens sont non seulement des architectes absolument indépassables au 19e siècle, des photographes, des imprimeurs, tout cela va ensemble. Et penser à Aragüler, le
bien
dernier
sûr.
Photographe, qui
bien
était
sûr.
D'origine arménienne. Donc,
ouais,
effectivement,
que j'ai connu.
Ilanana.
Mais en fait, cette idée de se mettre en scène dans un studio de photographie était extrêmement courant, pas qu'à Istanbul, mais au Liban, et au Caire. De ce qu'on a vu, il y a vraiment des collections incroyables de photos de studio où on voit vraiment les gens, on dirait, qui se posent la question « Est-ce que je suis assez moderne si je m'habille comme ça ?» Et en fait, cette mise en scène de soi, c'est un peu aussi ce qu'on a essayé de mettre en scène à travers le documentaire, mais en suivant les peintres, parce qu'en fait, les peintres étaient dans la première ligne de ceux qui se posaient cette question. Et donc, par exemple, dans l'autoportrait que Mustapha Farouk s'est fait...
Double autoportrait.
Une fois habillé en occidental avec costume, cravate, et une autre fois avec un keffiyeh. On dirait qu'il prend sur lui de se poser la question de qui on est dans cette période qui change. Et en fait, c'est exactement ça qu'on voit qui est fascinant quand on regarde les peintres se poser cette question. On voit l'évolution de la peinture de façon complètement différente à travers ce qu'ils ont pensé, pas ce qu'ils ont fait.
Et cette question de l'identité, elle est fondamentale. Elle pose un problème historique que vous, Olivier Bouquet, je me souviens, j'avais lu dans un de vos papiers sur la modernisation, la mise en cause en fait de ce thème historiographique de la modernité ottomane. Où vous rappeliez que, au fond, être grec ou juif ou arménien à Istanbul ne prédispose pas à un comportement moderne. Mais il y a aussi de ces réalités qui sont les réalités des communautés minoritaires.
Exactement, des communautés minoritaires qui sont ancrées dans une modernité des échanges, une modernité du politique, une modernité de la technique. C'est très important de rappeler
absolument.
Le lien entre
la
photographie et l'imprimerie, la lithographie, tout ça s'échange, tout ça se vend, tout ça s'achète. Effectivement, ces communautés-là sont centrales, mais en même temps, il n'y a pas d'assignation identitaire à cette époque. Donc,
bien sûr.
Être musulman, ça n'est pas être traditionnel. Être musulman, c'est aussi une façon de pouvoir participer de cette modernité technique. Et dans l'État ottoman, par exemple, d'un point de vue littéraire, il y a des formes nouvelles administratives qui prédisposent à l'autobiographie. L'autobiographie, des formes littéraires qui complètent ces formes photographiques.
Elvan Zabignon.
Oui, j'aime beaucoup l'idée, en effet, de modernité technique. Et puis, la photographie, en fait, a aussi une autre manière de se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, je me suis appuyée aussi sur un ouvrage qui a été rédigé par Catherine Pinguet, qui s'appelle « Une histoire arménienne, la photographie dans l'Empire ottoman ». Et on voit très bien aussi tous les déplacements vers Jérusalem. Alors, dans le documentaire, c'est très clair qu'il y a aussi aussi, bien sûr, Beyrouth, où il y a une communauté arménienne. D'ailleurs, dans le documentaire, il y a aussi ce peintre Paul Garrigosian, qui c'est très intéressant, parce que une famille qui fuit le génocide, qui se retrouve à Jérusalem, qui prend la nationalité palestinienne, qui se retrouve de nouveau dans une situation d'exil et qui revient, enfin, à Beyrouth, et où il y a un quartier arménien. Et en fait, j'ai l'impression que la photographie, en tant que image imprimée aussi, ou en tout cas reproduite, propose ces déplacements, ces voyages, peut-être autrement que la peinture, même si, bien sûr, parce que la peinture nécessite un lieu d'exposition, que la photographie, j'évoquais la carte de visite, par exemple, qui est une impression qui peut être multipliée et qui peut être aussi distribuée.
Ilana Navarro, c'est important, on a beaucoup parlé de peinture, on parle maintenant de photographie, on se dit qu'on aurait pu aussi parler de cinéma, d'architecture, ou qui est quand même aussi dans un des lieux fondamentaux où s'invente la modernité.
Bah, c'est dans la construction de l'image, en fait. C'est là où nous, on a essayé de ne pas faire une histoire de l'art, justement, dans le documentaire, mais plus une histoire de l'image et de la mise en scène de soi. Et dans ça, la photographie est hyper importante. Et même, on trouve, par exemple, des gens qui, voilà, comme on a dit chez Maryam Shahinian, c'est très, très flagrant, mais il y avait aussi, par exemple, Marie El-Kazen, au Liban, qui a photographié des gens qui essayaient de brouiller les pistes. En s'habillant un peu, parfois une femme comme un homme comme une femme, Moustapha Farouk qui s'habille avec le kafia sans kafia, c'est cette idée de contribuer à cet espace, justement, que, comme vous disiez, Olivier, qui est un peu ambigu, oui, qui est la modernité. Et c'est vrai que c'est fascinant de regarder toutes ces images.
Elvan Zabunyan.
Oui, je voulais juste peut-être dire une chose qui va bien aussi avec Allons-y voir, c'est que dans le cadre de la photographie, et en particulier un article que j'ai trouvé sur Maryam Shahinian, il est question de l'idée que les gens deviennent des images et que à partir de ces images, les personnes regagnent un statut d'être humain. Et j'aimais beaucoup l'idée, en fait, que l'on puisse, dans un studio photographique ou dans un atelier photographique, l'idée du portrait, en fait, c'est aussi ça, mais l'image, la personne est captée et puis la personne, elle redevient humaine parce qu'elle a existé sur un portrait photographique.
Et puis alors, si la modernité, c'est ça, Olivier Bouquet, si c'est cet art de brouiller les identités et les appartenances, si ce n'est pas seulement le vis-à-vis entêtant entre l'Orient et l'Occident, alors on a progressé depuis le début de cette émission. Hein. Finalement, c'est pas seulement le contre-orientalisme, c'est véritablement une histoire complète et, je dirais, profonde, sociale et sincère de ces sociétés.
Exactement, c'est une histoire des transferts, bien sûr, qu'on va de l'Occident à l'Orient et de l'Orient à l'Occident, et bien sûr qu'on voyage, et la photographie voyage très très facilement, comme ça vient d'être dit, et en même temps, on est dans un espace d'hybridation, c'est-à-dire que ce sont des transferts F-A-I-R-E-S, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire des créations qui sont parfois des créations de toutes pièces. Par ailleurs, on ne sait pas qui on est, on se cherche comme moderne, mais en même temps, on brouille les lignes, mais en même temps, on veut transmettre. C'est-à-dire que la photographie est transmise. C'est aussi ça pour. C'est quelque chose qui est transmis pour les siens, pour créer des portraits de famille, pour développer des généalogies, pour créer des mises en images qui participent de l'histoire de ces familles, qui échappent complètement à cette histoire de l'Occident face à l'Orient. Et inversement.
C'était Allons-y voir. Merci à vous quatre, Ilana Navarro, Olivier Bouquet, Nadia Radouane et Elvan Zabunyan. Les références de vos livres, de vos ouvrages et documentaires sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Raphaël Rousseau et à la réalisation Anna Holweck. Merci à vous toutes et tous.